Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Monsieur Gérard et Mademoiselle Jade seront avec nous dans quelques instants, mais à 8h39, la revue de presse et Amandine Bégaud. Et pour commencer, Amandine, on va évidemment parler de football.
Oui, pas du choc du jour, PSG Real, non, du QI football. Oui, oui, vous avez bien entendu, vous les mauvaises langues qui pensaient que football et intelligence ne font pas bon ménage, le QI football. Et c'est d'ailleurs peut-être cela qui fera la différence ce soir. Le magazine SoFoot y consacre ce mois-ci un grand dossier, enquête passionnante, que l'on aime ou pas le foot d'ailleurs. On y découvre que les footballeurs ont non seulement un cerveau, mais qu'en plus, c'est en train de devenir une préoccupation capitale pour les clubs. À son arrivée, le directeur technique de la formation du Paris Saint-Germain, qui est d'ailleurs venu du Barça, a prévenu: pour que Paris passe un cap au niveau européen, il faut, a-t-il dit, soit faire travailler le ciboulot des jeunes joueurs, soit en recruter d'autres dotés d'un QI football au-dessus de la moyenne. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que cette intelligence football? Pour Hans Leitert, ancien gardien, ce n'est rien d'autre que trouver la bonne réponse parmi plein d'options à une situation spécifique. En clair, savoir prendre la bonne décision au bon moment et pas juste sur le terrain. Un QI qui se mesure, certains clubs font désormais passer des tests, figurez-vous, avant de recruter un joueur, qui se travaille aussi à l'Athletic Bilbao par exemple. Oui. Le club insiste désormais pour que les jeunes en formation apprennent plusieurs langues, qu'ils étudient la politique, le business, car un cerveau stimulé est un cerveau plus efficace, paraît-il, sur le terrain. En Allemagne, certains clubs ont carrément des machines pour faire travailler le temps de réaction des joueurs, une sorte de salle de jeu vidéo pour développer les facultés cognitives. Et les experts qu'a rencontré SoFoot sont formels, ce sera la règle partout d'ici quelques années. C'est l'écrivain Ben Littleton qui résume le mieux les choses. On ne pourra pas, dit-il, dans les années à venir, faire en sorte que les joueurs fassent plus de sprints par match, qu'ils courent plus vite, qu'ils frappent plus fort dans la balle. Le football d'aujourd'hui est déjà physiquement très fort. La seule façon, dit-il, de progresser, c'est de développer ce qui se passe au-dessus des épaules. Dans la série, on n'arrête pas le progrès. Cette prouesse aussi, faire parler les morts, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. Prouesse à la fois incroyable et terrifiante également. C'est à lire dans Les Échos ce matin. L'histoire de James, notamment, il a perdu son père d'un cancer l'an dernier. Et pourtant, il continue à discuter avec lui par Facebook. Ce journaliste américain a profité des derniers mois de vie de son père pour enregistrer leur conversation. Sa passion pour le foot, tiens, on y revient. Mm-hmm. Les origines grecques aussi de sa famille, ou encore l'histoire de son premier chien. Il a ensuite confectionné un programme, un Datbot. Le Datbot, c'est le nom. Un robot conversationnel qui est capable de répondre comme son père l'aurait fait. Ce chatbot, bien sûr, ne remplacera jamais son père, explique James, mais il voit dans cette technologie un moyen de se souvenir de lui et de transmettre ce souvenir à ses enfants. Les Échos, qui, comme la plupart de vos journaux, reviennent bien sûr ce matin sur le chaos politique en Italie. Désastre à l'italienne, titre ainsi l'Humanité. Pour le Figaro, c'est le choc. Cette crise, explique Le Monde, perturbe les plans européens d'Emmanuel Macron. Comment en effet mener les réformes d'ampleur de la zone euro, la création notamment d'un super ministre des finances communes sans l'appui de l'Italie, qui, on le rappelle, est la troisième puissance économique de la zone euro. Une crise incarnée par un homme, Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord, l'Italien qui fait trembler l'Europe, titre ainsi ce matin Libération. Libé, qui consacre un grand papier également à l'hôpital Beaujon à Paris. Nouvelle illustration de l'état catastrophique de certains de nos établissements de santé. Nous sommes dans le service de pancréato-gastro-entérologie. C'est difficile à dire. Un service de pointe, en tout cas en théorie. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y faisait pas plus de 17 degrés la semaine dernière dans les chambres. 17 degrés pour des malades en fin de vie. Foudrage. Le chef de service a immédiatement adressé un mail à la directrice de l'hôpital. Il s'insurge. La malade, écrit-il, a froid dans son lit. Une parka, un pull en laine, une étole autour du cou. Pas très facile, dit-il, de vomir dans cet attirail. On a promis, poursuit-il, de scotcher les fenêtres. Oui, scotcher les fenêtres, un traitement très moderne et esthétique pour assurer l'étanchéité des fenêtres. Mais ce n'est pas fait. On nous a promis un chauffage d'appoint. Il n'y en a pas. Une couverture, il n'y en a pas non plus. Un brin ironique, il conclut ainsi. Ah, j'oubliais, on me dit que ce sont des conditions extrêmes. Moins 7 degrés en février, c'est vrai que c'est difficilement prévisible. La direction, de son côté, évoque la vétusté des lieux, mais elle l'assure, le service incriminé doit être rénové cette année, en 2018. Bref, conclut Libé, un peu de patience. Je propose d'imaginer un QI bon sens. Ça pourrait peut-être éviter certains problèmes.
C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.